famille descend pour les fêtes? Fais plaisir au beau-papa et équipe-toi chez Café Sobab. Crois-moi, toi aussi, tu vas en avoir besoin.
Avec Marceau et Audrey Pinchot.
10h33 minutes, vous êtes dans l'open mic. Au niveau de la météo, 1 degré à l'extérieur présentement. Possibilité d'alternance soleil-nuage. Selon Environnement Canada, je ne vois pas comment le soleil peut se pointer pour du nez jusqu'à maintenant. Mais c'est une possibilité ce soir et cette nuit. Moins 1, faible neige intermittente. Moins 2 degrés pour ce qui est de demain. Vendredi, moins 8, ensoleillé. Samedi, un peu plus difficile, des possibilités d'averse de neige avec moins 7. Par contre, dimanche et lundi, gros soleil, moins 11. On risque de retrouver les bonnes températures pour ce qui est de la semaine de Noël. Je suis en compagnie de Pascal CV jusqu'à 11h30. Elle prend le relais de Marceau à partir de cette heure-là jusqu'à 14h pour vous accompagner. Et là, on est rendu au moment de cette émission où on reçoit un de mes invités préférés. Puis là, on avait un concept quand même parce que le temps des fêtes approche. On voulait faire ça le fun, on voulait faire ça léger. Un, deux. On s'est dit pourquoi pas.
Pascal, j'ai entendu que notre invité a fait un petit bruit, puis je ne l'ai pas capté, puis j'ai dit « erreur de micro par ici ». Et voulant rétablir l'erreur, j'en ai créé une autre.
Danny Morissette, qui est en studio, ancien policier à la SQ, c'est un collaborateur régulier de l'Open Mic. Bon matin.
Hey, bon matin, Pascal. Bon matin, Audrey.
Comment ça va, toi?
Ça va super bien. Joyeux temps des fêtes.
Ça fait quelques mois que tu es tombé à la retraite.
Oui, depuis le mois de mai.
Depuis le mois de mai.
Tout ça frais. Un retraité frais.
Tout frais. Tu t'ennuies-tu?
Ouais. Ah oui, je commence à m'ennuyer. Si tu m'avais posé cette question-là, voilà quelques mois, je t'aurais dit, oublie ça, non. Mais, ouais, tranquillement, pas vite, là. Ça fait 6 mois que je suis à la retraite, puis des fois, je regarde, là, pour peut-être faire d'autres choses.
Essayer de t'occuper autrement.
Ouais.
Puis, y a ça qui change, j'ai l'impression, avec la retraite de plus en plus, hein. Le principe qu'on veut, continuer de faire quelque chose. On dirait qu'il y a un moment où t'espérais dans la vie arrêter de travailler, puis rien faire, regarder dehors, puis prendre ton temps. Puis on dirait qu'il y a comme une recrudescence des retraités qui veulent recommencer à travailler, bouger, faire du bénévolat.
Bien, comme on dit, c'est le fun de jouer au golf, mais quand tu joues 365 jours par année, c'est plus un hobby.
C'est moins spécial.
C'est moins spécial. Donc, je suis un peu dans ce mood-là actuellement. Mais voyez-vous, là, les policiers de la Sûreté du Québec retraités, c'est commencer l'embauche.
OK.
Alors...
Ils vous réembauchent, vous voulez dire, à temps partiel?
À temps partiel ou à temps plein, tout dépendant des besoins dans la province. Ça a sorti la semaine dernière ou voilà 2 semaines. Il y a quand même des critères à respecter, dont la date d'ancienneté qui est 28 ans minimum. Et puis, là, ils ont commencé par le volet patrouille gendarmerie. Donc, exemple, il manque du personnel à New Richmond parce que il y a des femmes qui sont enceintes, il y a des arrêts de travail, il y a du monde qui est en congé différé. Bon, ils vont vous envoyer là pour un contrat de quelques mois. C'est correct.
Tu y penses-tu?
Oui, mais à quelque part, si j'ai pris ma retraite, c'était pour une raison. C'était peut-être pour arrêter de faire de la police. Donc, pour moi, tant qu'à ça, j'aurais continué.
Je comprends.
Donc, ça, peut-être un jour, il ne faut jamais dire non, mais pour l'instant, ça m'intéresse
pas. Est-ce qu'ils sont allés justement dans les endroits où ça va être le plus aguichant, intéressant pour les retraités dans leurs demandes où ils n'ont pas réfléchi à ça? Parce que sinon, ça veut dire que les gens ne vont pas nécessairement répondre à l'appel quand ils souhaiteraient répondre à cet appel-là.
Mais c'est une bonne question parce que c'est sûr et certain que connaissant la Sûreté, ils vont commencer par combler les postes où est-ce qu'il y a des manques puis où est-ce qu'il y a des besoins. Et les besoins, c'est pas nécessairement alléchant pour les policiers qui sont retraités, c'est en région. Quand on parle de région, c'est l'Abitibi, la Gaspésie, la Côte-Nord.
Il faut que tu quittes ton chez-vous.
Oui. Donc, il y a cette partie-là à combler. Je pense qu'il débute tranquillement par ces places-là pour tranquillement s'en venir vers Québec, Montréal. Mais ensuite, ils vont combler le volet enquête où là, peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait m'intéresser.
C'est-tu indiscret de te demander, Danny, pourquoi tu as quitté la police? Tu dis une raison pour laquelle je l'ai faite. On dirait que tu as piqué ma curiosité.
Bien, on fait jamais le tour du jardin, comme on dit. J'ai appris à tous les jours, mais dans mon cas, j'ai eu 13 transferts dans la province. Ça m'a usé. Ensuite, comme responsable d'équipe à gérer du personnel, j'ai pas toujours trouvé ça évident. On s'entend, la police, t'es toujours dans le négatif, t'es toujours dans... T'arrives chez vous le soir, tu penses toujours à tes dossiers. Donc, je trouvais ça très accaparant. Puis tranquillement, pas vite, je commençais à me manquer d'énergie, puis j'ai tellement vu des policiers partir en maugréant, avec beaucoup d'amertume contre l'organisation, que moi, je me suis dit, ça ne m'arrivera pas. Je veux sortir par la grande porte. Donc, avant d'être irrité, puis d'irriter les autres, Ben, j'ai décidé de partir.
T'es parti au bon moment, on va le dire comme ça. T'as bien fait, là. Je voulais qu'on jase un peu d'actualité avant de tomber dans le plaisir des vrais ou faux concernant la police. D'ailleurs, vous avez des questions 88-971-102. Il y a beaucoup d'articles qui sont sortis dans les derniers jours qui ont un peu piqué la curiosité des gens parce qu'on se dit, on est-tu vraiment rendu là? Entre autres, peut-être commencer par le beurre et les fromages qui intéressent le crime organisé. C'est quelque chose que je trouve franchement loufoque. Puis quand tu lis un peu ce qui est ressorti, on parle de cas, entre autres, en Colombie-Britannique, où il y a eu des grands vols, des vols évalués à du 12 800 $ de fromage, de beurre, pour faire de la revente sur le marché noir. C'est-tu la première fois que ça arrive, ce genre d'affaires-là?
Non. La réponse est non. Est-ce que c'est fréquent? Absolument pas. C'est vraiment inusité comme dossier.
Les crimes organisés, on pense à drogue d'habitude. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais d'habitude, la première chose à laquelle tu penses, c'est ce qui est peut-être un peu plus illicite. Là.
Souvent, puis en même temps, moi, j'ai insinué quelque chose qui a été juste des rumeurs et des palabres, hein, Dani, mais dans le temps aussi, on parlait du fromage, de l'industrie fromagère et laitière, pas nécessairement aux fermes, mais aussi dans la mafia. T'sais, ça a été quelque chose qui a été ultra présent, qui l'est peut-être encore sans qu'on le sache, mais c'est comme ça que je le voyais. Sauf que là, voler finalement des produits pour le revendre sur un marché noir, ça, c'est la première fois que je voyais ça, par exemple.
Mais en fait, c'est pas la première fois, puis je vais vous le rappeler, puis vous allez dire, ben oui, c'est vrai, pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Rappelez-vous du vol de sirop d'érable qu'il y a eu
Seigneur.
En 2011-2012. Un vol où est-ce que j'avais pris les montants? Il y avait eu 3000 tonnes de barils de sirop d'érable volé. Là-dessus, il y avait eu un total de 18,7 millions de volés.
Ouais.
Et ça avait été revendu un peu partout dans le monde. C'était le dossier, le vol, la fraude du siècle, si on veut.
Ils ont même sorti une série, il y a deux semaines à peine, de Sticky, basée sur la vraie histoire de ce vol-là. C'est fou, ça fait encore jaser aujourd'hui.
Je reviens de Las Vegas, et puis je parlais avec des policiers là-bas. Je leur disais que je venais de Québec, puis eux, ils pensent que Québec, c'est à côté de Vancouver. Bon.
Comme beaucoup de touristes. On va voir le Canada en trois jours.
Oui, mais la seule chose qu'ils savent de Québec, c'est le maple syrup.
Pour vrai?
Oui, ils se rappellent. Ça a passé partout dans le monde. C'est probablement un des plus gros vols qui a jamais eu lieu, à tout le moins au Canada. Donc, il y a eu ce vol-là qui est similaire un peu au fromage. Et également, en 2015-2016, alors que j'étais au crime majeur, on a enquêté un dossier, nous, on appelle ça des vols de cargo, le projet Obligé de la Sûreté du Québec, vous irez voir sur Internet. En gros, les gens volaient, oui, du fromage, mais également de l'aluminium. Et à l'époque, à Caraquet, au Nouveau-Brunswick, ils avaient volé des homards. Des cargaisons de homards.
Tout le temps des choses qui valent cher, là, quand même, qui se revendent peut-être moins cher sur le marché, qui se mettent toutes dans les poches. Là.
C'est ça. Le homard, eux autres, ils vendaient ça plus dans le coin du Vermont, en Ontario. Et puis là-dedans, il y avait eu quand même 16 arrestations. On parle d'un total de 53 millions, 78 dossiers résolus. Le modus operandi des suspects là-dedans était quand même assez intéressant. C'est qu'ils volaient un camion qui était capable d'attacher un container, et après ça, il allait voler chez Agropur, entre autres, du fromage, et il volait également à Caraquet, je ne me souviens plus le nom de l'entreprise, du homard, qui revendait sur le marché noir, comme tu dis.
Ah, de cette manière-là. Mais c'est fascinant. Puis, tu sais, dans la fraude puis le vol de sirop d'érable, en tapant, les auteurs s'appellent Richard Vallière, Raymond Vallière, Étienne Saint-Pierre, Avic Caron, Sébastien Jutras. Vraiment du monde d'ici. Puis des chefs d'accusation, des peines d'emprisonnement de 8 ans, amende de 9,4 millions de dollars. Ils prenaient pas ça pour la petite bière, malgré que ça paraissent un peu loufoque comme vol. Là.
Bien, l'histoire est super intéressante. Puis je parlais de Sticky. C'est sur Prime Video si ça vous intéresse. Là. C'est très, très collé sur cette histoire-là qui s'est passée en 2012. Il y a Guillaume Cyr là-dedans. Là. C'est 6 épisodes très collés.
J'ai trouvé ça bon. T'as vu mon regard.
Donc, ça peut peut-être être quelque chose d'intéressant à regarder pendant le temps des fêtes si vous n'avez aucune idée de c'est quoi cette histoire-là. Complètement fascinant.
Bien, moi, tu me l'apprends. C'est sûr et certain que je vais la regarder.
Tu me donneras des nouvelles à savoir à quel point c'est peut-être lié au fait, tu sais, toi qui étais en poste à ce moment-là, je suis curieuse de savoir à quel point on
ben moi, je veux pas se couper parce que c'est vraiment une histoire extraordinaire, mais je me souviens que ça se passait à Saint-Louis-de-Blatford, si je me trompe pas, parce qu'on l'avait enquêté, ce dossier-là, au crime majeur, entre autres à Québec, mais on était plusieurs policiers. Et puis, c'était une entreprise de stockage de sirop d'érable. Et puis, ils vérifiaient seulement une fois par année si les barils étaient pleins ou vides. Et eux, ils siphonnaient les barils et ils laissaient là, ils remplissaient d'eau au début.
Ouais.
Et après ça, ils remplissaient plus pantoute tellement qu'ils sentaient à l'aise.
Comme quand on volait de l'alcool à nos parents, finalement. Ils ont pris la même, la même façon de faire que quand ils étaient jeunes avec les bouteilles d'alcool. Oh, ça paraîtra pas, on va mettre de l'eau là-dedans. Jusqu'à temps que les parents s'en servent une fois par année.
Et je vous passe le restant parce que c'est quand même un dossier avec des tentacules un peu partout. Mais pour revenir à ta question, est-ce qu'il y a de la mafia là-dedans? Pas directement, c'est du crime organisé traditionnel québécois. Est-ce que la mafia est impliquée dans l'économie légale, dans ce type de fraude-là, de vol-là? Absolument.
Oui, on ne peut pas l'éviter, là. Ça me fait penser aussi au moment où les jeunes volaient c'était-tu les catalyseurs en dessous des chars?
Encore aujourd'hui.
Pour les métaux qui valaient un certain montant.
Le vol de cuivre encore et des fils qui sont déchaussés, leur gaine. Il y en a qui se tuent aussi à faire ces vols-là juste pour une coupelle de piastres.
Toujours absolument. Dans les faits divers, dans les derniers jours, il y a quelque chose qui a fait beaucoup, beaucoup réagir, relié à la bouchée généreuse.
Oui.
Un vol d'environ 1 500 $ qui s'est passé en fait semaine passée au restaurant Hector dans Charlebourg. Puis finalement, bon, le gars, il était arrêté en passant, là, parce que je pense que c'est quelque chose qui travaillait beaucoup le monde, de se dire, elle ne peut pas croire qu'on ne l'a pas pogné encore. Raphaël Garon, c'est ça son nom?
Ah oui, puis ça vaut à peine de le nommer, ce champion-là, parce que vous m'aviez déjà posé dans une autre chronique antérieure si j'avais des crimes qui étaient plus pardonnables que d'autres.
Oui.
Puis moi, dans ce cas-ci, c'est pas au niveau de la gravité du crime, autant que ce gars-là n'a aucune conscience. Mmh. Tu ne voles pas...
Ah, oh, c'est ingrat, là.
C'est ça, tu ne voles pas des pauvres qui ont besoin d'argent. Je veux dire, il y a tellement d'endroits où est-ce que tu peux... Lui, il sortait de prison, ce gars-là.
C'est comme si c'était pas éthique. T'sais, ça ajoute, on dirait, au manque de jugement. T'sais. Dans le sens, tu veux voler, tu veux être dans le crime. Vole plus grand que toi, pas plus petit. Là.
Ça oui. Se demandait s'il voulait pas retourner en prison. C'est une des questions que je me suis posée.
Ben, moi, je te confirme que non, parce que lorsque le juge, lui, était arrêté lundi soir, et le mardi matin, le procureur de la Couronne s'est objecté à la remise en liberté. Et lui, la première chose qu'il a dit... C'est juste un vol simple. J'ai deux enfants. Pourquoi vous me gardez en dedans pour un vol simple?
Ah,
donc, il ne voulait pas rester en dedans. D'ailleurs, à l'heure qu'on se parle, ça doit être son enquête sur remise en liberté aujourd'hui.
Tu sais, c'est fou, là. Tu as deux enfants. Tu ne réalises pas que cet argent-là va aider des familles qui ont besoin de se nourrir, ce qui est la base en passant. Là,
voilà.
Le montant n'a pas été retrouvé.
C'était ma question. 1 500 $
J'ai de la misère à comprendre. Ben, là, j'ai de la misère à comprendre comment. Il s'en est sûrement débarrassé d'une certaine façon. Là. Mais il n'y a rien à faire dans ce temps-là, Dani. C'est surtout pour des organismes comme ça, là, je trouve ça épouvantable.
Nous, comme policiers, on va s'occuper du volet criminel, mais en ce qui concerne la perte monétaire, malheureusement, il n'y a rien qu'on peut faire.
Ça serait du côté de la clientèle. Peut-être qu'on pourrait aller toucher Hector, consommer quelque chose de très bon en passant, puis de mettre un montant supplémentaire puis essayer de récolter à nouveau le 1 500.
Le pire, c'est qu'heureusement, ça, c'est arrivé. Là. Ouais. Dans les derniers jours, les gens se sont tellement sentis frustrés de la situation qu'il y a eu des dons supplémentaires à la bouchée généreuse, ce qui est une chose extraordinaire.
Mm-hmm.
Là.
Oui.
Je vais en profiter pour vous rappeler, on prêche pour notre paroisse et pour celle de la bouchée généreuse. Dans le stationnement du complexe Le Bourgneuf où on travaille ici, il y a un géant contenant jaune, identifié oui. Vous ne pouvez pas le manquer. Là.
Il est
énorme. C'est un géant container dans lequel vous pouvez venir mettre des denrées non périssables qui vont aller à la bouchée généreuse directement. Le conteneur de la bouffe, c'est comme ça que la gang de Dallaire au 91-9, l'autre bar week-end, l'a appelé. Puis il est là, il ne bouge pas. Il est pour récolter les denrées pour pouvoir aider la bouchée généreuse. Vous rappelez que vos dons valent le trip, hein? Ils ont des ententes avec les grandes surfaces comme les Costco de ce monde. Si vous remettez, je ne sais pas, moi, 5 piastres, dites-vous que pour eux, ça vaut 15. Fait qu'ils sont capables d'aller chercher énormément de nourriture. Il n'y a pas un don qui est petit. Ça peut vraiment faire la différence.
Oui, puis c'est une bonne action. Puis parlant de bonne action, rien que terminer là-dessus. Ce suspect-là, là, Garon, là, qui s'appelle Raphaël Garon, 35 ans, était bien connu des policiers. Il était abonné à nos services. Oui, il nous aimait bien. Et puis, la population a aidé énormément à l'enquête. Rien que vous donner une idée, là, j'ai pris ça du propriétaire du restaurant Victor. On parle de 13 000 partages de sa photo sur Internet, sur Facebook. Et là-dessus, son nom est ressorti 650 fois.
C'est capoté pareil, hein?
On s'entend qu'on avait la bonne personne. Hey. Donc, grâce encore aux citoyens, c'est important de le mentionner, un dossier a été résolu.
Est-ce que les réseaux sociaux vous aident plus que vous nuisent? Tu sais, des fois, on entend parler, là, que ce soit pour des battus, pour n'importe... On nous dit, hey, approchez pas trop de la scène parce que ça nous nuit plus que ça nous aide. Des fois, les réseaux sociaux nuisent aussi plus qu'ils aident, mais dans des cas de même. Mais
bien, souvent, la question qu'on me pose, surtout quand j'étais policier, c'est « Hey, j'ai été victime de fraude, j'ai une photo d'un suspect où je me suis fait voler dans mon cabanon, dans un dépanneur, j'ai une photo, est-ce que je peux le mettre sur Facebook? Est-ce que ça pourrait vous aider? » Nous, on ne peut pas, comme policier, vous dire « Non, vous ne pouvez pas le mettre. Okay? »
C'est
vous
pas
avez,
interdit.
Vous avez le droit. Ouais. Parfois, ça va aider à l'enquête, ça va même l'accélérer, mais parfois, tout dépendant le type de crime, bien entendu, ça va plus nous nuire que d'autres choses. Donc, avant de passer à l'acte et de le faire, même si vous le faites de bonne foi puis que c'est pour attraper le suspect, demandez aux policiers si vous devriez le faire ou pas.
Comme conseil.
Comme conseil.
C'est bon, ça.
Ça nuit dans quoi, mettons, un exemple concret? Est-ce que ça va nuire finalement
recherche
à vos enquêtes?
Recherche d'individus, j'imagine.
Admettons, parce que souvent, les gens ne le savent pas, mais un fraudeur. On parle de fraude,
ouais.
Là. On a un fraudeur qui a fraudé sur Marketplace. On pourra en parler tantôt si ça te tente. Bon, parfait. On a une photo de lui. Et là, la personne veut le mettre. Mais nous, on a une série de fraudes où c'est qu'on a plein de plaignants, puis où est-ce qu'on a des descriptions, mais on n'a pas nécessairement la photo de l'individu en question. Donc, le fait de mettre cette photo-là sur les réseaux sociaux va nous obliger à travailler beaucoup plus rapidement et peut-être va nuire aux autres enquêtes qui sont en cours. Je ne sais pas si vous me suivez.
Mm-hmm.
Donc, à ce moment-là, je vous dirais que c'est vaut mieux être patient, puis tant qu'à attraper le suspect pour une fraude, aussi bien prendre un pas de reculons, attendre un 3, 4, 6 mois, et après ça, le frapper, l'arrêter pour tous les dossiers en série, les dossiers de fraude qu'il a fait.
Parce que vous ne serez pas capable à ce moment-là, si ça va trop vite, de prouver pour le reste.
Bien, en fait, on va pouvoir le démontrer par la suite, mais il va avoir déjà comparu pour les dossiers où c'est qu'on est sûr que c'est lui. Mais par la suite, quand même, on est en mesure de l'arrêter pour les autres dossiers.
Mmh.
Mais idéalement, vaut mieux de l'arrêter une seule fois pour toute la série de crimes qu'il a commis.
Tu parles de fraude, Marketplace, oui, mais la fraude du petit-fils, tout ce qu'on reçoit par texto. Ah. Dans les médias récemment, on nous parlait même que les fraudes par taxi, c'était rendu une affaire qui se faisait beaucoup. Donc, une dame dans un taxi, mettons, qui « Ah, j'ai pas d'argent, je peux pas payer mon taxi », te demande ton aide. Et pendant que tu fais le PayPass, il y a un problème avec la machine, hein, fait que le conducteur va prendre ta carte, l'échanger avec une sur laquelle il y a rien, une fausse carte, la redonner, partir avec ta carte de crédit en ayant vu ton IP. Ça s'est fait, c'est des 15 000 $ qui ont été volés sur des cartes de crédit. La fraude, y a-t-il des... On les connaît le pire, mais des conseils de prévention venant d'un policier, là, justement, là, qu'il faudrait peut-être appliquer parce qu'on ne la retrouve jamais, cet argent-là. Là.
Effectivement, souvent, quand on se fait frauder, on le réalise tout de suite après. Hein? On se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai donc bien été naïf. » Combien de personnes qu'on a rencontrées que les policiers pourraient témoigner que la première chose qu'ils disent, c'est ouais, je suis gêné un peu de vous la raconter, je me suis fait avoir. Ou combien de personnes ne portent pas plainte à la police, tout simplement parce qu'ils ont honte de s'être fait prendre d'un arnaque, ou c'est que le commun des mortels se serait fait prendre. Moi, le premier, je me suis déjà fait prendre. Ma conjointe, récemment, elle voulait acheter de quoi sur Marketplace, puis on ne l'a jamais eu, elle est allée donner un acompte. Je me suis déjà fait frauder de la crypto-monnaie. Regarde, personne n'est à l'abri de la fraude. Par contre, il y a des moyens de prévenir le crime et des indices. Et c'est à l'année, mais ces temps-ci, je vous dirais, la période des fêtes arrive, vous allez voir des méga deals sur Marketplace. Des trucs que vous voulez avoir qui normalement valent 1000 $ qui subitement valent 200 $
Moi, je me suis fait avoir, mais pas jusqu'au bout la semaine dernière. Il y a quelqu'un que je connais qui publiait sur Facebook. Mon beau-père s'en va en résidence, donc on vend tout ce qui est à l'intérieur de la maison, pas de faute, clean. Un gars que je connais, que je pense connaître à ce moment-là, avec plein d'images puis les prix à côté. Mais tu sais, ça semble vraiment être, hey, on vide la maison, on veut vendre, à des prix qui sont pas exorbitants faibles, mais sont pas aussi extrêmement chers. Fait que tu as le goût de les acheter, puis c'est sur du beau matériel, des belles choses. Puis là, j'écris en privé au gars, j'ai dit, attends, je vais passer ton annonce, je vais la publier. Puis là, j'écris aussi à sa blonde. Puis c'est sa blonde qui me répond « Hey, c'est une fraude. Mathieu s'est fait pirater son Facebook. » Mais ça semblait vraiment, vraiment, vraiment réel. Puis je me suis dit « Crime, je suis contente d'avoir écrit à sa blonde. » Mais à ce moment-là, je me dis « Combien de personnes se sont fait prendre? » Parce qu'effectivement, après, c'était comme « Hey, ben écoute, mets un account de X là-dessus. » Puis t'as l'impression de parler à ton ami, là. T'as vraiment l'impression que c'est réel. Puis nous, on est là-dedans. À longueur de journée, je me suis fait prendre. Hier encore, j'appelle une de mes amies, carte de crédit. C'est par les alarmes qu'elle a mis, puis par le système de sécurité qu'elle a mis, elle était capable de ne pas se faire prendre. Mais en ce moment, c'est à fond la caisse Montléon sur la fraude, n'importe quel type de fraude. Là.
Oui, puis avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus facile pour eux, parce qu'avant, c'était plus facile de détecter une fraude. Il y avait plein de fautes d'orthographe dans le texte, puis ou bien non, c'était un Français, on va dire, de l'Afrique, pour ne pas dire de la Côte d'Ivoire. Mais oui, pour ne pas se faire prendre, il y a plusieurs conseils de prévention. Puis la première chose que j'ai le goût de vous dire, c'est quand c'est trop beau pour être vrai, là, posez-vous des questions. Là, c'est probablement une fraude. Fait que votre sixième sens, c'est probablement votre meilleur allié dans ce type de dossier-là. Maintenant, sur Internet, première chose à faire, si vous voyez un article intéressant sur les marketplaces de ce monde, regardez le profil du vendeur. Si c'est un nouveau profil, une nouvelle création, oubliez ça, là. Oui. Prenez même pas de chance, perdez pas de temps là-dessus. Il y a des chances que ça soit une fraude. Comme tu dis, Pascal, tu as entièrement raison. Il y a beaucoup de vols d'identité sur les réseaux sociaux. Donc, si jamais il y a un truc qui est à vendre, fais exactement ce que toi t'as fait. Communique avec ton ami, savoir si c'est vraiment lui qui a posté ça sur le réseau social.
Pas nécessairement communiquer avec lui par Messenger, si c'est par Facebook, là, on s'entend. Parce que moi, j'ai mis toute ma famille là-dedans. Là. Je l'ai envoyé en disant « Hey, y a-tu des choses qui vous intéressent? » Je pense que j'étais assez allumée normalement, mais c'était tellement crédible que... Fait que je dis comment, faut que j'en parle à la radio si jamais quelqu'un a besoin, mais la double vérification, là.
Absolument. Puis tu sais, heureusement, tu t'es pas fait prendre. Je regarde, moi le premier, j'achète sur Marketplace, je regarde beaucoup les avis des clients. S'il n'y a pas d'avis de clients, là, Marketplace, ça fait des années que ça existe, c'est pas normal. La majorité des gens, là, je pense pas me tromper, vendent des trucs sur Marketplace. T'es censé avoir des avis. Si t'en as pas, déjà là, il y a un autre red flag qui vient d'apparaître. Moi, un truc que je fais, puis que je suggère aux auditeurs de faire, et à vous également, lorsqu'il y a une image, exemple, des trucs à vendre, là, une maison, débarras d'une maison, etc., allez voir sur Google Images. Vous risquez de voir la même image 6 mois, 1 an en arrière, puis dans un autre pays.
Ah bon?
Ça, c'est un truc, je vous dirais, qui ment pas. Et puis, sinon, si vous êtes encore pas certain que c'est vrai, écrivez à la personne et demandez-lui d'autres photos.
Oui, ça, c'est une bonne idée. Moi, je le fais souvent, ça, pour avoir des photos en direct, là.
Oui.
Ça en dit long, là.
S'il vous en donne pas d'autres, là, c'est parce que l'item, là, il l'a pas en lui, avec lui. Oui.
Toujours être accompagné, je trouve ça intéressant aussi. Moi, c'est quelque chose que... Puis c'est peut-être... et c'est peut-être rempli de préjugés, mais peu importe qui à l'autre bout du profil, là, on dirait que je suis rendue craintive. Fait que quand il y a comme un échange à faire ou... je vois tout le temps à deux.
Très bonne idée.
Tout le temps.
Avoir un témoin, là, lors d'une transaction, là, c'est parfait. Et puis, je vais même aller plus loin dans ton raisonnement, Audrey. Vous pouvez prendre la plaque d'immatriculation. Ou à tout le moins la description physique du vendeur ou de l'acheteur. Ben, en fait, dans ce cas-ci, c'est le vendeur. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça, là. Ça allait être beaucoup les policiers.
Tantôt, Dany t'a dit, en passant, on était avec Dany Morissette, ancien à la SQ. Là, tantôt, tu nous as dit signaler à la police. Puis là, je ne veux pas te coincer ou te relancer, mais on a souvent l'impression que les policiers peuvent rien faire et ou ne font rien. Puis peut-être simplement par manque d'effectifs. Il y a des affaires plus importantes de temps en temps que ton téléphone à 200$ que tu t'es fait voler, là. Mais c'est assez dur de se dire qu'on va signaler quand on sait que ça ne donnera rien.
Oui, OK. Première des choses, on les enquête, les dossiers de fraude. Mais je vous donne l'heure juste. Actuellement, entre autres, quand j'étais responsable des enquêtes dans le coin de Saint-Anne-de-Beaupré, aller jusqu'à la Malbaie, environ un dossier sur deux est un dossier de fraude. Okay. Au niveau de la priorisation des dossiers, les crimes contre la personne vont toujours prendre le devant sur les crimes financiers. On parle d'agression sexuelle, tentative de meurtre. On s'entend. À ce moment-là, on va prioriser ce genre de dossier-là. Oui, il y a un manque d'effectifs. Oui, dans mon cas, on avait 4 postes à couvrir et on était 7 enquêteurs. Donc, Quand tu as un, en anglais, un caseload, c'est-à-dire un panier de dossiers de 30 par enquêteur, c'est certain qu'à un moment donné, il y a d'autres dossiers, les dossiers de fraude, où est-ce qu'on n'a pas de suspect, où est-ce que les probabilités du type de fraude est outre-mer. Donc, outre-mer, on ne peut pas enquêter parce qu'on n'a pas d'entente de réciprocité avec les autres pays pour ce type de crime-là. Et aussi, parce que souvent, c'est complexe. Il faut passer via Interpol, etc. Il y a un autre fait important à savoir au niveau des types de fraudes, c'est qu'il y a une prescription. Il y a certains types de dossiers, comme les agressions sexuelles, où c'est que, on pense entre autres à Nathalie Simard ou à plein d'autres victimes d'agresseurs d'époque qui ont porté plainte plus ou moins récemment, il n'y a aucune prescription pour ce type de dossier-là. Mais pour ce qui est de la fraude, ça peut aller entre 6 mois et 6 ans, tout dépendant du type de fraude. Donc, c'est certain que nous autres, les enquêteurs, on va prioriser les dossiers de fraude où c'est qu'on a une photo de suspect, où c'est qu'on a plusieurs indices, une plaque, qu'un dossier où c'est qu'il faut travailler via une adresse IP, Internet, un dossier où c'est que le suspect n'a pas été vu, etc. À ce moment-là, on va y aller beaucoup plus sur le concret. Le restant, il y a quelques dossiers qui vont aller du côté de la patrouille gendarmerie, qui sont les patrouilleurs, parce que nous, on n'a pas les ressources humaines suffisantes pour enquêter ce genre de dossier-là.
Mais ça vaut-tu la peine de signaler quand même quand c'est outre-mer, d'un coup, qu'il y en a plusieurs, que ça s'accumule puis que ça devient gros, ou vraiment, vous pouvez littéralement rien faire? Parce que des fois, je sens la frustration de certains auditeurs quand on en parle par rapport au fait que bien, tout se retrace sur Internet. Fait comment ça, on n'est pas capable de pogner le bozo qui vient de m'enlever 20 000 piastres, mettons, sur ma carte, tu sais?
Non, puis ils ont raison d'être frustrés. Puis c'est vrai que les fraudes outre-mer, malheureusement, à moins que ce soit une fraude, on parle de milliers de dollars, de millions de dollars, malheureusement, le dossier va être fermé. On n'enquêtera pas ce type de dossier-là. Oui, mais je donne l'heure
plus,
juste.
Ben non, mais tu fais bien, Dani, mais c'est plus d'être en prévention à ce moment-là, puis tu as peut-être raison, c'est les trucs que tu as donnés, je les trouve pas mauvais pantoute, là.
Non, puis écrivez au centre antifraude aussi. Non seulement faites une plainte à la police, le pire qui peut arriver, c'est qu'on vous rappelle puis qu'on vous dise, regarde, ton dossier, finalement, provient de l'Afrique, ou du Brésil, ou peu importe, donc on ne peut pas l'enquêter, il est fermé. Et n'hésitez pas à relancer l'enquêteur de votre dossier pour savoir où est-ce qu'il en est rendu dans son enquête.
Pourquoi?
Pour savoir, justement, à quoi s'en tenir. Peut-être que l'enquêteur va vous dire, écoute, je n'ai même pas eu le temps de l'ouvrir, le dossier, tellement que j'en ai par-dessus les oreilles. Ou peut-être qu'il va dire, hey, t'as bien fait de me parler de cette fraude-là, parce que j'ai été en mesure de le relier avec plein d'autres dossiers dans la province. Et on a des suspects là-dedans.
Ça permet-tu aussi qu'ils tombent en deux craques?
Écoute, c'est certain que moi, personnellement, quand j'étais aux enquêtes, puis un citoyen m'appelait puis me demandait, ben, je ne dis pas à tous les jours, là, mais une fois de temps en temps, où est-ce qu'en était rendu son dossier, puis que j'avais un bon lien avec lui, on est tous humains, bien oui, on faisait notre possible pour faire en sorte qu'il soit satisfait.
Vous êtes là pour aider. C'est ce qu'il faut retenir, je pense. Dani Morissette, ancien policier à la SQ, tu bouges pas?
Non.
On prend une petite pause. Au retour, on va avoir bien du fun parce qu'on va parler des mythes et réalités de la police. Et il y en a des cocasses. Vous avez des questions? 88-971-1021 par texto.
Les bains chauds.
Vous êtes dans l'open mic, 11h07. C'est pas encore beau, mais il paraît qu'on aura un peu de soleil cet après-midi. On se croise les doigts. Je m'appelle Audrey Pinchot, accompagnée de Pascal CV jusqu'à 11h30, qui va prendre le relais pour Marceau le midi. Toujours accompagnée aussi de Dani Morissette, ancien policier à la Sûreté du Québec. Et là, on a besoin de vous autres. 88-971-1021, c'est le texto. Il y a le twitch.tv, BLVD, Barantou FM également. On fait un genre de deux vérités, un mensonge. Les mythes et réalités sur le métier de policier, il y en a des cocasses. Et là, Dani, je t'avoue que j'ai lu en diagonale parce que je voulais que tu nous les racontes. Je voulais pas être au courant, je voulais pouvoir réagir. Je sais que Pascal les a regardés en diagonale aussi. Je te laisse aller, en fait.
Mais vous avez pas non plus les réponses.
Non,
donc,
c'est ça.
Vous allez participer avec les auditeurs. J'ai mis beaucoup de cœur là-dedans. Donc, j'ai hâte de voir ce que les gens vont répondre. Et puis ça, c'est suite à v'là deux semaines, quand que je racontais les histoires loufoques que j'ai vécues.
Oui.
T'avais sorti, Audrey, t'avais dit « Crime, avec toi, ça serait le fun de jouer à deux vérités, un mensonge. » Puis tranquillement, pas vite, j'avais ruminé ça. Ouais, puis je me suis dit « Hey, c'est pas fou. On va le faire, mais avec des sujets qui touchent à la police, des mythes, comme tu dis, des légendes, mais également des réalités policières.
Alors là, connectez-vous. Hein. On voit le Twitch monte, là. C'est twitch.tv/blvd/fm. Connectez-vous, c'est comme ça qu'on va pouvoir jaser avec vous puis jouer avec vous.
Puis ceux qui sont dans le véhicule, vous pouvez jouer aussi.
Oui, avec vous-même et nous.
Alors, on va commencer avec la première thématique qui sont les barrages routiers. Pour ceux qui sont sur Twitch, j'ai trois citations, trois affirmations. Vous avez rien qu'à voter pour le mensonge, soit la citation 1, 2 ou 3. Donc, écrivez 1, 2 ou 3. On y va avec la première. Barrage routier. Mâcher de la gomme peut diminuer les risques d'être arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies, car ça camoufle la laine.
Est-ce que
c'est une vérité ou un mensonge? Deuxième citation. Vous pouvez refuser de souffler dans un appareil de détection approuvé. Ça, c'est lorsque vous faites intercepter pour les capacités affaiblies dans votre véhicule. Ou est-ce qu'on vous fait souffler dans un appareil dans votre véhicule? Ou encore, dans la même citation, le fameux alcotest, le livret sans maître, au poste de police. Vrai ou faux, vous avez le droit de refuser. Troisième citation, les appareils alcotest dans les établissements licenciés ne sont pas fiables et donnent un taux erroné d'alcoolémie dans le sang. Vrai ou faux?
Je pense que j'ai trouvé le mensonge.
Mais t'es-tu une pogne? Si tu un, parce que marcher de la gomme, on va se dire, ben là, c'est ça, s'il l'a mis, c'est un mensonge.
Mais tu vois, moi, j'avais pas l'impression qu'on pouvait refuser de souffler dans un alcoolotest. Mais en même temps, manger de la gomme, mais non, ça cache pas la laine d'alcool, là. Ça sent partout, me semble, quand tu bois, là.
Moi, j'ai goût de jouer puis de dire, le mensonge, c'est manger de la gomme.
Moi aussi, je pense ça. J'y vais pour ça. Il y a beaucoup de gens sur le Twitch qui nous disent que manger de la gomme, ça ne camoufle pas la laine d'alcool. Fait que
t'as
les gens l'entendent
pareil, là.
Ouais, t'as l'air toton, là.
Ben, tabarnouche, ça a été facile. On a commencé facilement. Vous avez tous raison. Effectivement, au contraire, manger de la gomme, l'habitacle du véhicule va sentir l'alcool. Et moi, personnellement, dans mon ancienne vie, quand il y avait un individu à bord de son véhicule comme conducteur qui mâchait de la gomme, qui regardait dans les airs à droite,
tu
sauf moi...
Ça t'allume des lumières.
Ben souvent, c'était mon sujet de la soirée, donc...
Ça sent-tu vraiment? Vous le savez tout de suite quand quelqu'un a bu?
Si ton chum arrive chez vous, puis il a pris deux
bières,
tu vas-tu le sentir?
Oui, t'as raison, 100%.
Ça sent... Puis c'est pas pour rien aussi qu'on est deux dans les barrages routiers. La porte côté passager, quand la fenêtre elle ouvre, on le sent automatiquement. Donc, oubliez ça, la gomme, c'est un vieux truc qui n'a jamais marché. Ça n'enlèvera pas votre taux d'alcool dans le sang. Par contre, les vérités sont importantes. C'est que vous avez le droit de refuser de souffler dans un alcotest. C'est tant mieux pour nous autres, les policiers, parce que le rapport est moins long à remplir. Et c'est une accusation criminelle. Donc,
ah, fait que tu as le droit de refuser, mais c'est parce que ça vient avec son bagage.
Oui, à ce moment-là, tu viens d'avoir une accusation criminelle d'avoir refusé de souffler dans un alcotest.
Il y a des conséquences quand même.
Ben oui. Donc, je vous dirais, prenez la chance de ne pas sauter à la balloune.
Deuxième énoncé.
Ah, on va aller au deuxième énoncé. OK, on parle de tests physiques au niveau policier. Première citation. Les exigences pour les tests physiques d'entrée à l'École nationale de police du Québec à Nicolette ne sont pas identiques pour les hommes et les femmes. Deuxièmement, vous devez savoir nager pour être policier au Québec. Et troisièmement, vous devrez refaire et réussir ces tests une fois par année pour rester sur la patrouille lorsque vous allez être policier.
Hey, je trouve ça plus difficile, ça.
Moi, j'irais avec le 3 comme mensonge.
Ah ouais, hein?
Ouais.
Moi, tu vois, j'aurais été avec le 2, on dirait, savoir nager pour être policier au Québec.
C'est quoi le mensonge? Écoute, 1, 2 ou 3?
Et quoi que, j'ai pas l'impression que t'es refait une fois par année. Hey, il est tough, celle-là! Hey, les auditeurs disent beaucoup 3 en passant sur le Twitch. Okay. Là, il vient beaucoup, donc le fait de devoir refaire les tests, ce sera un mensonge. Je pense que je vais suivre la famille.
Mais vous avez encore une fois raison. Faut croire que j'ai pas été dur dans questions.
Non, c'est parce que gang, tu l'as dit dans une chronique à un moment donné, et ouais. Ça m'a marqué. Ouais. Parce que je me disais, crime, pourtant... De plus en plus, ils font face à des défis physiques là, dans la patrouille.
Ben oui, ça devrait.
Moi aussi, c'est quelque chose que je trouve quand même exceptionnel, là, qu'on n'ait pas à passer de test physique au moins aux 2 ans. Mais vous avez raison, effectivement. Une fois qu'on sort de Nicolette puis qu'on est rentré dans un corps de police, c'est terminé les tests physiques, sauf certains corps d'emploi.
Même que souvent, c'est risible un peu. T'sais, on a comme l'image du policier qui vire avec une bédaine puis qui devient gros puis qui sait plus faire grand-chose. Non, mais c'est vrai, pareil. Ouais.
Si tu as des tests physiques à faire, mettons, 11 ans ou 2 ans, ça va te motiver à être en forme aussi.
T'as pas le choix de te tenir
en forme.
Santé
mentale, ça va t'aider, c'est sûr, physiquement, avec tout ce que tu affrontes comme patrouilleur aussi. Je sais pas.
Mais je suis content parce que les jeunes aujourd'hui, ils s'entraînent. Malgré le fait qu'ils ont des horaires atypiques,
c'est
très difficiles, s'entraînent beaucoup, beaucoup. Ça fait partie de leur routine de vie, chose que j'avais moins dans mon temps, fin des années 90.
Fait qu'il faut savoir nager pour être policier au Québec.
Absolument. Vous avez des tests de natation, chose encore une fois qui n'existait pas dans le temps, heureusement, parce que je nage comme une roche. mais aujourd'hui,
aussi.
Il y a des tests de natation pour rentrer dans plusieurs collèges également en technique policière. Donc, vous devez... Mais ils sont en train de refaire les tests actuellement. Et ils parlent possiblement d'enlever les tests de natation.
OK.
Oui.
Pour quelle raison? On dirait que je trouve ça quand même nécessaire.
Bien, moi, j'ai jamais eu à nager, personnellement, dans mon travail. Et puis, ça peut arriver. Et c'est déjà arrivé. Et dans certains corps de police, il y a une politique de gestion qui dit qu'on n'a pas à risquer notre vie pour sauver celle des autres, même si on ne l'écoute pas nécessairement, là, je vous dirais. Là. Mais entre autres, au SPVM, là, le mot d'ordre, c'est on ne saute pas dans l'eau pour se ramasser avec deux décès au lieu d'un. Là.
Ah, je ne savais pas ça, que ça devenait un peu un mot d'ordre. Là. C'est intéressant.
Ben, c'est une politique actuellement, oui.
Troisième énoncé.
OK. Elle est facile. À la Sûreté du Québec, nous pouvons prendre notre retraite avec pleine pension et sans aucune pénalité après 1, 20 ans, 2, 25 ans ou 3, 28 ans.
Là, on cherche le mensonge? Ou la vérité, en fait, qu'on cherche?
Le mensonge.
Je vais dire 20 ans, c'est trop jeune.
Il y a deux vérités et un mensonge.
OK, encore là-dedans?
Oui.
Je pense que c'est 20 ans. Je trouve que 20 ans, c'est trop jeune.
20 ans, ça serait faux?
Oui, je pense que 20 ans, ça serait faux, moi. Toi, Pascal?
Ah. 20 ans.
Hein? Et les auditeurs?
Les auditeurs, à date, 20 ans aussi. C'est le numéro 1 qui ressort.
Encore une fois, vous avez raison. C'est 20 ans. On peut prendre notre retraite à 20 ans, par contre, sauf qu'on a une bonne pénalité au niveau de notre fonds de pension. 25 ans, c'est sans pénalité. 28 ans, c'est où est-ce que, je vous dirais, la moyenne des policiers décide de prendre leur retraite.
OK. Puis c'est là aussi qu'on voyait qu'on pouvait retourner travailler à temps partiel, parce que si on suit depuis le début de la chronique, après 28 ans, il y a une possibilité de revenir à temps partiel comme retraité.
Et voilà.
Pouvoir et devoir d'un policier citoyen pour vérification de l'identité.
Super intéressant, cette question-là, pour les citoyens, parce que souvent, ils ne le savent pas. Première citation. Vous avez l'obligation de vous identifier comme passager d'un véhicule lorsque vous faites intercepter. Deuxièmement, vous n'avez pas à vous identifier à l'intérieur d'un établissement licencié, on parle d'un bar, ou son stationnement, à moins d'être mineur.
OK.
Et trois, comme responsable d'un établissement licencié, on peut parler du gérant, de la serveuse d'un soir, vous avez l'obligation de vous identifier à la demande de la police. Deux vérités, un mensonge.
Je pense que le deux est faux.
Ah, mais je ne sais pas pourquoi j'irais avec... Un est faux, mais ils le font souvent. Fait que ça doit être vrai. Mais en tout cas, un pour moi.
Ah oui?
Ouais.
Tu penses qu'on n'a pas l'obligation de s'identifier comme passager d'un véhicule?
Écoute, je sais pas. Je mets à la
pire. Comme passager. Pas comme conducteur.
Passager du côté droit, arrière.
Hey, ben je pense que je te suis.
Sauf que tellement, mettons, moi, il y a beaucoup de policiers qui l'ont demandé. À un moment donné, ma sœur a eu une contravention pour sa ceinture pas attachée, elle était passager. Fait que c'est sûr, ça me mélange, mais je vais aller avec un.
Hey, les gens sont mitigés sur le Twitch, là.
C'est entre un et deux.
Ouais, il y en a qui pensent que vous n'avez pas l'obligation de vous identifier comme passager. Il y en a qui pensent que vous n'avez pas à vous identifier à l'intérieur d'un établissement, sauf si vous êtes mineur.
Comment savoir qu'ils sont mineurs,
tu sais? C'est ça. OK, non, moi,
c'est quoi la réponse?
La réponse, c'est quoi, Dani?
La réponse, là, le mensonge, là, c'est la première citation.
Oh, on l'avait.
Vous avez l'obligation de vous identifier comme passager d'un véhicule. La réponse est fausse. Vous n'êtes pas obligé de vous identifier comme passager ou à l'arrière d'un véhicule. Effectivement, Pascal, tu as raison. Les policiers le demandent pratiquement toujours. Et il y a une raison pour laquelle on la demande. C'est pas parce qu'on veut aller à la pêche, c'est pas parce qu'on veut savoir c'est qui la belle fille qui est à droite. C'est vraiment pour une question de sécurité. Parce que souvent, quand on intercepte un véhicule, et exemple, il y a 5 personnes à bord et on est seulement 2, on ne veut pas que les personnes qui sont en avant de nous sortent du véhicule, que ce soit des gens criminalisés, qui aient des armes à feu, etc. Donc, c'est beaucoup pour la sécurité du policier.
OK. Mais ça rend ça facile, je trouve, pour les criminels. Tu sais, tu peux refuser de t'identifier. Il me semble que tu t'assis côté passager, puis c'est simple.
Mais si, mettons, c'est pas toi qui est en leurre, qui est en problématique ou encore contre la loi, ça va sûrement dans ta charte des droits, ouais, des libertés, voilà, de ne pas...
Mais c'est
ça, la réponse?
C'est exactement, ouais, c'est ça. À moins d'avoir commis une infraction comme passager, on l'a nommé, tu ne portes pas ta ceinture de sécurité ou tu as jeté une cigarette par la fenêtre du côté passager, ou est-ce que là, tu as commis une infraction, tu as l'obligation de t'identifier. Mais si tu n'as rien fait, tu es assis à droite d'un véhicule, le conducteur, évidemment, a l'obligation de s'identifier, mais non, pas le passager.
Parce qu'on dirait que j'imagine la scène vraiment dramatique, mettons, là. Moi, plutôt, on est complice, Pascal, là. Puis c'est toi qui as dirigé
le
meurtre.
OK, dans le meurtre.
Puis, dans le fond, il y a quelqu'un dans le coffre de notre char qui est décédé, puis il faut l'enterrer.
Oui, je te dirais, c'est très dramatique, effectivement.
Puis, mettons, moi, je suis comme la pauvre fille, puis tu m'obliges à conduire le char, puis c'est moi qu'on intercepte, je m'identifie, j'ai comme rien à me reprocher, puis c'est toi la criminelle, puis toi, tu peux refuser de t'identifier.
Oui, je comprends. T'es quand même complice là-dedans, mais.
Je suis rendue très loin là. Non, mais tu sais, mettons que tu m'as mis un gun sur la tente.
Ah oui, OK.
Je suis dans un film.
T'es aussi une victime de ma part.
Exactement.
Je t'oblige à conduire
le
corps mort.
Je trouve ça super intéressant. Danny Morissette, ancien policier à la SQ. Le temps file. On n'aura pas le choix de se faire une partie 2
ben
au
oui.
retour des fêtes. C'est super intéressant. Les gens ont vraiment participé sur le Twitch, twitch.tv, BLVD, barre en dessous FM. Restez pas loin. Pascal s'en vient dans les prochains instants pour ce qui est de Marceau le midi. Pascal, je te remercie.
Merci à toi.
Je te souhaite un bon choix. On se retrouve demain matin, même heure, même poste dans l'Open Mic. Ciao.